Juges, le chapitre 8. On s'était laissé la dernière fois avec Gédéon. On va couper court sur l'introduction. On reverra un peu plus tard où est-ce qu'on est rendu dans les juges. J'avais fait la dernière fois un petit PowerPoint pour voir où est-ce qu'on est rendu dans les juges, avec quelle période. Et puis, Gédéon est un juge qui a beaucoup de matériel qui nous est donné dans les Écritures et qui sont là pour notre instruction, qu'on peut tirer plein de filons à l'intérieur de ces textes-là de l'Ancien Testament qui s'appliquent à notre vie encore aujourd'hui. C'est la parole de Dieu qui est vivante, qui est efficace, qui nous transforme. Et puis, on est à la fin de l'histoire de Gédéon. On a vu que Gédéon avait, avec ses 300 hommes, vaincu les Madianites, un peuple nomade, très nombreux par le fait qu'ils sont nomades, puisqu'ils étaient tout ensemble. Alors, tout le peuple assemblé, c'était nombreux comme le sable de la mer avec leurs chameaux. On les appelle les Ismaélites. Souvent, ils ne sont pas nécessairement directement des Ismaélites, mais c'est un terme utilisé pour parler des peuples du désert, souvent des nomades, aujourd'hui des Arabes. Mais dans ce temps-là, c'était particulièrement des Madianites. Et Gédéon les avait vaincus, et puis on voit aussi, je fais juste rappeler, rafraîchir à votre mémoire, une tribu qui était un peu offusquée de la manière de faire de Gédéon. Vous souvenez-vous? Éphraïm. Ils ont dit, ben voyons donc, il me semble que c'est pas comme ça qu'on s'en va à la guerre. Tu nous avertis pas à la dernière minute comme ça, puis nous envoyer finalement l'armée qui se dirigeait vers Éphraïm, puis Gédéon avait envoyé des messagers, prenez-le dans le détour. Alors Gédéon a dû révéler, pas révéler, mais régler un problème avec les Madianites, pas les Madianites, les Éphraïm, les gens d'Éphraïm, pour régler la situation. On a dit non, on vous méprise pas. Même en fait, qu'est-ce que c'est que le coup que moi j'ai porté comparativement à vous, que vous avez vaincu finalement la majorité du peuple des Madianites? Mais Gédéon était le premier à avoir quand même donné ce coup-là. Et on va voir tout ce contexte-là. Il est vraiment important à garder en tête pour qu'on puisse comprendre aussi les prochains événements. Parce que le peuple est en train de... C'est l'établissement du peuple. Il s'est quand même passé plusieurs années après Gédéon. Mais le peuple est quand même établi et il commence à y avoir différentes rivalités ou différentes tensions déjà entre les tribus. Et ça va prendre son apogée avec les fils de Salomon, vous vous souvenez, où il y a eu la division. Mais quand même, on voit déjà des prémices de ces choses-là. Déjà à ce moment-là des divisions. Alors on voit les tribus du nord, les tribus du sud, qui déjà il commence à y avoir des discussions qui s'emportent. Ce soir, ce que je veux que l'on voit, on va terminer Gédéon et on va regarder le chapitre 9. Le chapitre 9, il y a 57 versets et on les lira pas toutes, mais on va lire, je vais vous résumer différentes sections de l'histoire et puis on va s'attarder, disons, aux éléments qui a des choses particulières où est-ce qu'on peut aller chercher des applications pour notre vie chrétienne. Alors, la première des choses, on s'était laissé avec ces deux derniers versets-là la dernière fois, et puis je veux qu'on prenne quand même ces deux versets-là dans le chapitre 8 de Juges, les versets 22 et 23, où on voit que Gédéon a à parler avec le peuple, et puis le peuple est très content de l'œuvre de Gédéon, est très content de ce que Gédéon a fait. Le peuple a vu la fidélité de cet homme-là qui était soumis à Dieu, qui s'est laissé transformer par Dieu. Tout le peuple a été emporté, encouragé par la foi de Gédéon. Et là, ils ont une demande à Gédéon, qui est la première demande officielle que l'on voit du peuple qui est entré en terre promise, dans les versets 22-23. Quelqu'un qui veut le lire? Danny. OK. J'étais probablement induit en erreur en disant 23-24, mais c'est 22 et 23. Alors, mais on va revenir au verset 22. Le verset 24, merci de l'avoir déjà lu. Il n'est pas inutile, on va le relire tantôt. Verset 22, les hommes ont fait une demande. Verset 22, d'Israël dire à Gédéon, « Domine sur nous, et toi et tes fils et les fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Et là, on a vu la réponse au verset 23, la réponse de Gédéon. Pourquoi est-ce que les hommes d'Israël demandent cela? Pourquoi est-ce que les hommes d'Israël demandent à Gédéon d'être son roi, d'être leur roi, lui, ses fils, les fils de ses fils? Pourquoi le peuple a cette demande-là? OK. Ouais. Ouais. OK. Alors, ils ont vu l'œuvre de Gédéon. Est-ce que c'était louable de la part de ces juges huit? Si je vous ai dit en erreur encore, là. Je vous avais trompé. Je suis vraiment désolé. C'est juges huit que l'on est dans les versets 22-23. Est-ce que c'était louable de la part du peuple que de demander ça? Oui? Non? C'est un signe de reconnaissance à l'égard de Gédéon. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était un genre de requête que le peuple pouvait formuler? Oui? OK. Alors, s'ils marchaient droit avec Dieu et ont placé leur confiance en Dieu, c'était une réponse qui était louable. Dans l'organisation, d'après le point de vue théocratique, Dieu est le roi. Dieu est le roi d'Israël. Et j'aimerais que vous tourniez quand même, mais je vais prendre deux volontaires. Un volontaire qui veut me lire dans Deutéronome 17, là où je vous invite la majorité à tourner. Deutéronome 17, les versets 14 à 20. Un volontaire qui veut me lire cette référence-là? Deutéronome 17, 14 à 20. OK, Madame Dumont. Et puis, est-ce que tu veux lire, Daniel, 1 Samuel 8, les versets 1 à 9? Alors, on va commencer avec Deutéronome 17, Madame Dumont, versets 14 à 20. OK, merci. En lisant ce texte-là, quels avertissements que l'on voit rapidement, sans qu'on décortique tout le texte, mais rapidement, quels sont les avertissements que Dieu donne au peuple en ce qui concerne la demande d'un roi? Quels sont les prérequis? Faut pas qu'il y ait beaucoup de femmes, faut pas qu'il y ait beaucoup de chevaux, faut pas qu'il y ait beaucoup de biens matériels auxquels il va s'attacher. Quoi d'autre aussi? OK, ça a dégénéré assez vite, hein? Déjà au troisième roi officiel, disons, il y a eu Saül, après ça David et Salomon. Salomon, il y a eu beaucoup de femmes. Je ne sais pas combien il y a eu de chevaux, mais il y a eu beaucoup de richesses. Et qu'est-ce qu'il devait faire aussi avec les Écritures? Apprendre à le connaître, il devait en avoir une copie et la lire. Dans quel but? De craindre l'Éternel, dans le but que son cœur ne s'élève point. Il devait lire les Écritures pour la mettre en pratique aussi. Quand on lit ce texte-là, vous n'avez pas l'impression que c'est un texte plutôt avec beaucoup de prérequis, qui n'est pas nécessairement un texte avec une saveur positive, mais plutôt une saveur un peu freinante. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu a prévu la demande du peuple, sans que Dieu dise, quand tu vas entrer en terre promise, je vais te donner un roi qui. Mais regardez le verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent, alors c'est un peu l'institution terrestre de la royauté était d'une forme, une nécessité, mais une nécessité relative, destinée à combler un déficit spirituel. Alors voilà pourquoi cette institution, sans être ordonnée, est cependant prévue et acceptée par Dieu. est donné avec des prérequis pour prévoir justement comment choisir un roi. D'après le point de vue théocratique, l'Éternel n'est pas seulement le Dieu, comme je disais tantôt, mais il est aussi le roi d'Israël. C'est ce que le peuple devait comprendre. Alors, bien que le peuple pouvait se choisir un roi pour être semblable aux autres nations, il ne devait jamais oublier, comme ce que David disait lui-même, ben c'est Dieu qui est le roi. Alors, plusieurs des psaumes de David disent justement, c'est l'Éternel qui est le roi. C'est lui qui siège au ciel. C'est lui qui a le royaume. Et David reconnaissait bien ça. Alors, c'est pour ça que c'était un roi qui était selon le cœur de Dieu. Mais le roi qui était prétentieux et qui se voyait au-dessus d'Israël et qui tassait finalement la place de Dieu, ben manquait ce que la loi cherchait à éviter en donnant ces prérequis-là dans Deutéronome chapitre 17. Dans le verset, Daniel, si tu veux lire les autres, on peut tourner dans 1 Samuel 8, les versets 1 à 9, qui est une autre requête qui a été faite, deuxième requête qui a été faite, vous la connaissez bien, le peuple avec Samuel, et on va lire qu'est-ce que le peuple demandait, quelle était la réaction. OK. Dieu est en train de dire à Samuel, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En fait, ils ont toujours agi comme ça à ton égard, comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte, je les ai fait sortir d'Égypte. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Alors, ce qui se passe présentement dans les juges est en train de révéler aussi à travers la réponse de Dieu dans Samuel un peu qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur du peuple avec Gédéon. Gédéon était un homme qui servait Dieu. Gédéon était un homme qui était voué à son service, et ce n'est pas nécessairement mal leur requête qu'ils font envers Gédéon, parce que c'était une requête qui était prévue selon les Écritures aussi, qui pouvait choisir comme il faut un roi qui allait dominer sur eux. Sauf que, pourquoi est-ce qu'ils voulaient un roi? Comme on a vu dans Deutéronome, comme on vient de voir là, pourquoi les gens demandent un roi? Comment? Pour régner sur eux, pour être comme les autres. On veut être comme les autres. C'est ce que Deutéronome disait. Quand vous allez demander un roi parce que vous voulez ressembler aux autres nations, dans ce cas-là, Dieu révèle la même chose. Regardez le verset 5. Ils lui disent, voici, tu es vieux, tes fesses ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi qui puisse juger comme il y en a chez les autres nations. Alors, c'est un désir de ressembler aux autres nations. Ce n'est pas nécessairement un désir condamné par la loi, mais du moins qu'il y a une pente où ce que ça peut les éloigner facilement que de garder Dieu comme roi, premièrement. Oui, Normand. Deutéronome. Ouais. Ouais. Et exactement. Et je comprends le commentaire. Ouais. Puis dans la suite du texte, ce que l'on va voir tantôt, on va voir de par les fils de Gédéon, une réponse aussi à cette demande-là qui était faite du peuple envers Gédéon. On va voir une expression, je vais essayer de ne pas l'oublier, mais une expression qui révèle quel était le cœur du peuple à ce moment-là, puis la compréhension même de Gédéon, et la compréhension que l'on doit avoir même du Deutéronome de ce que c'est que de ne pas avoir plein de chevaux. Parce que là, en fait, même Samuel, Dieu lui dit, avertis-les de ce que le roi va avoir le droit. Puis là, on ne le lit pas. Mais si vous vous souvenez, il y a des choses qui sont beaucoup plus préjudiciables au peuple que d'avoir un roi, que de garder Dieu comme roi. Puis en fait, ce que Dieu est en train de révéler sur le cœur du peuple ici, c'est ils ne sont pas en train de te rejeter, Samuel. Ils sont en train de me rejeter moi. Verset 7, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que quoi? Que je règne plus sur eux. Dieu est en train de révéler du cœur de son peuple au temps de Samuel que, en fait, ils rejettent Dieu. Ils veulent un roi qui va régner sur eux dans le but que Dieu règne plus sur eux. Et, OK, je vous invite à revenir dans Juges. On n'a pas beaucoup qui nous est donné ici du cœur, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de révélations qui nous est donnée du cœur du peuple d'Israël au temps de Gédéon, sauf que l'on voit, comme on a vu dans Deutéronome 17, ce que Dieu révèle dans la demande d'un roi, et on voit aussi avec Saül qui va être choisi comme roi par le peuple, bien, qu'est-ce que ça révèle aussi de leur cœur. Alors, il y a des choses qui ne changent pas, et ça en est probablement une ici. On va continuer de lire dans les versets 24 à 27. Quelqu'un qui veut lire, on va voir la réponse tantôt en ce qui concerne du roi avec une parabole de Jotham. Mais avant, on va lire Juges 8, versets 24 à 27. Quelqu'un qui veut lire ça? OK, je sens. OK, on va arrêter là pour l'instant. Un piège se crée en Israël. Un piège se crée en Israël. Et pourtant, on vient de voir plusieurs choses qui sont très victorieuses avec Gédéon. Et là, on arrive vers la fin de sa vie où il y a un piège. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que Gédéon fait? Quelle est la requête de Gédéon? Non, je ne régnerai pas sur vous, mais j'ai une demande à vous faire, par exemple. Qu'est-ce que Gédéon demande? De l'or. De l'or du butin que vous avez récolté suite à la bataille qu'il y a eu. Donnez-moi les choses d'or que vous avez récoltées. Alors, ça, c'est le verset 24. Puis, verset 25, il dit, ben, on va te les donner volontiers. Ils ont étendu un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux, puis le butin. Puis, le verset 26, le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 sicles d'or. À peu près, je vais regarder, à peu près 25 kilos d'or. C'est quand même pas mal. Sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Et là, ça en faisait du butin. Là. Imaginez, je sais pas si vous vous souvenez du texte qui disait que leurs chameaux étaient nombreux comme le sable de la mer. Ils avaient des croissants sur le cou des chameaux. Alors, c'est un butin gigantesque, mais ils ont ramassé les anneaux. Ils ont ramassé à peu près 25 kilos d'or. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Un éphode. Exactement. Un éphode. Un éphode, c'est un habit de sacrificateur, un vêtement comme une chemise pour les sacrificateurs et qui était tissé. Et on imagine que avec ce que Gédéon avait ramassé en or, il était probablement rempli d'or et qu'il devait vraiment être resplendissant. Est vraiment particulier comparativement à tous les habits d'or, les habits, les éphodes qu'on avait vus jusqu'à présent. Ça devait vraiment être un éphode particulier. Pour qui cet éphode-là est devenu un piège? Pour le peuple? pour lui et pour sa maison. OK. Gédéon, verset 27, en fit un éphod et le plaça dans la ville à Ophra, c'est sa ville à lui, où il devint l'objet de prostitution de tout Israël. Il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Cet éphod-là est devenu un piège. L'éphod est un habit de sacrificateur, comme je disais tantôt. Il faut regarder, on va tout de suite aller au verset 23. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal et ils prirent Baal-Bérit pour leur dieu. Il y avait à ce moment-là, au moment de la mort de Gédéon, un retour à la prostitution aux idoles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Gédéon pour que ça devienne un piège pour lui, pour Israël et pour sa famille? Ophra n'était pas la ville où il y avait le sanctuaire. Le sanctuaire est à Éphraïm, à Silo, à ce moment-là. Alors, les gens devaient se rendre au sanctuaire pour adorer Dieu. Qu'est-ce qu'un habit de sacrificateur faisait à Ophra? Est-ce qu'il y avait... est-ce qu'il commençait à y avoir un autre lieu de culte qui se faisait sans qu'il soit un objet de prostitution à des idoles? Mais un autre lieu de culte qui était en train de se déplacer à Ophra, là où vivait Gédéon. Et qui portait cet éphod-là? Est-ce que c'était Gédéon ou même un autre sacrificateur? Le texte ne dit pas que c'est Gédéon qui le portait, mais il a été placé à Ophra. Alors, Gédéon a voulu chercher à conserver quelque chose de sa victoire. Il est allé le chercher dans le domaine religieux. C'est particulier qu'il est allé chercher l'or et ce qu'il s'est construit, ce qu'il s'est fabriqué avec, c'est un éphod. Gédéon avait dû régler un conflit avec la tribu d'Éphraïm. Il y avait une tension qui s'était créée là. Elle s'était probablement résolue aussi. Mais est-ce que, pour dire finalement, parce que j'ai lu différents commentateurs, là, et puis pour essayer de résoudre la question aussi avec le verset 33, qui dit que c'est après la mort de Gédéon qu'ils sont revenus à la prostitution des Baals, par exemple, à se prostituer aux Baals. Alors, plusieurs commentateurs vont dire qu'il y avait le piège qu'il y avait, c'était un second lieu de culte qui était en train de se déplacer, qui n'était pas permis par Dieu, qui était d'une façon proscrite et qui est devenu un piège pour le peuple que de commencer à avoir un petit lieu de culte séparatiste, si je peux dire, à Ophra. Alors, la majorité des commentateurs vont expliquer ça comme ça, ou de l'autre côté, qu'il commençait tranquillement vraiment à y avoir des prostitutions à des idoles à partir de la vie de Gédéon. Mais le verset 33 dit que c'est vraiment après sa mort. Oui. Exactement. Oui. Oui. Et quand on regarde dans l'histoire d'Israël, les lieux de culte qui étaient déplacés, justement, amenaient, justement, tranquillement, pas vite, l'infidélité et l'abandon aussi du peuple dans ce lieu de culte-là qui devenait non seulement un piège que d'avoir détourné le lieu du culte, mais que cet objet-là, comme l'éphod, qui aurait pu être placé, ou comme par exemple le serpent de bronze de Moïse, vous vous souvenez, qui avait demeuré, il est devenu un piège éventuellement, devenant une idole, et puis les gens ont commencé à l'adorer, et c'était plus un symbole pour Israël de se souvenir de l'œuvre de Dieu, mais c'est devenu une occasion de péché pour eux, de prostitution à d'autres dieux. Alors, ce qu'on peut retenir, l'éphod est devenu un piège, verset 27, pour Gédéon, pour sa famille, pour sa maison, et puis pour Israël. Du moins, C'est ça. À ce moment-là, ce que l'on voit, on va regarder peut-être un autre volontaire qui veut lire les versets 28 à 35. On va compléter le reste du texte qui va continuer d'illuminer le texte précédent en ce qui concerne le piège qui s'est produit avec Gédéon. Mais quelqu'un qui veut lire les versets 28 à 35. David? Oui. OK, quelle a été la fin de Gédéon? On a vu tantôt que Gédéon a renoncé à devenir roi. On a vu que Gédéon a fait un éphod avec le butin. C'est devenu un piège. Et là, on voit la fin de Gédéon dans les versets 28 à 35. Quelle était la fin de la vie de Gédéon? Il y a eu une heureuse vieillesse. Quoi d'autre aussi? Verset 32 qu'on a lu. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Il a été enterré dans le sépulcre de son père, à Ophra, qui appartenait à sa famille. Quoi d'autre aussi? Qu'est-ce que l'on connaît? Soit de la fin de Gédéon ou de le suivi du peuple avec la fin de Gédéon? Ouais. Oui, exactement. Ben, en fait, le texte le dit. Regardez verset 30. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Alors, il y a eu plusieurs femmes, 70 fils. Oui, c'est ça. Il a échappé. Oui, Gaétan? Oui, exactement. Et c'était une des raisons, même dans Deutéronome, sans que Gédéon soit devenu roi. Mais la raison demeure la même, c'est-à-dire qu'il dit qu'il n'est pas beaucoup de femmes pour pas qu'il détourne son cœur de l'Éternel. Mais même s'il n'était pas roi, il y a eu beaucoup de femmes, et sa concubine, du moins, si lui, il est mort heureux dans sa vieillesse, il est mort quand même fidèle à Dieu, ça lui a causé des problèmes éventuellement. Verset 31, sa concubine était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, et lui donna le nom d'Abimélec. Et on va voir les problèmes qui viennent avec Abimélec. De sérieux problèmes. Alors, pendant la vie de Gédéon, le peuple était fidèle. Le peuple a été en repos, verset 28. Madian a été humilié. Et puis, pendant 40 ans, durant toute la vie de Gédéon, ils ont été en paix. Et puis, Gédéon est retourné dans sa maison. Il a eu une heureuse vieillesse. Il a eu plusieurs enfants, plusieurs femmes qui lui causent préjudice à Israël éventuellement. Et lorsque, verset 33, qu'on a vu tantôt que Gédéon est mort, ben les enfants d'Israël recommencent à se livrer aux prostitutions de Baal. Puis on prie Baal, Bérit pour leur Dieu. Puis les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé avec leur mémoire? Ils se souviennent plus de Dieu. Ils se souviennent plus de l'Éternel. Ils se souviennent plus de quoi d'autre? Ils se souviennent plus de Gédéon et sa famille. Ouais. Non, probablement. Et exactement. Et c'était ce que j'allais dire tantôt, là, mais je me perds dans mes notes. En fait, le péché consista donc dans l'établissement d'un sanctuaire, ce que je crois, rival de celui de Silo, qui était à Éphraïm. Ce culte séparatiste dégénéra bientôt en un culte idolâtre, où ce que l'éphod est resté. Et la fin de Gédéon, mais la fin de Gédéon était positive, avec le peuple qui a suivi Gédéon aussi, mais le peuple, au verset 34-35, ils ont oublié. Ils ont oublié l'Éternel, ils ont oublié son œuvre, ils ont oublié un conducteur important qu'ils ont eu. Puis une chose importante que Dieu nous dit, c'est de se souvenir des conducteurs, que d'avoir du moins de cet honneur-là qui est donné à Gédéon, à sa famille, pour ce qu'il a donné à Israël. C'était un héritage qui était légué, mais le peuple l'a oublié, puis l'a laissé. Et la foi de Gédéon aurait dû demeurer, du moins, de ce qu'il avait donné. Qu'est-ce qui s'est passé de par son influence? Mais le peuple a été en repos. Qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Gédéon? Bien, ce qu'on voit, le peuple semble oublié. Puis qu'est-ce que ça révèle du cœur de l'homme? On est oublieux. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. On est oublieux. On tombe facilement dans des pièges. On tombe facilement dans des pièges qui peuvent nous éloigner de Dieu. Nos pas sont fragiles. Il faut rester près de Dieu. Il faut rester attaché de Dieu. Et ça révèle comment est-ce que l'homme, rapidement, Dieu dit, tournez dans Deutéronome 4. Deutéronome 4, versets 5 à 9. Oui, c'est bon. Ouais. Je pense pas qu'il. Je pense que dans ce cas-là, est-ce que l'Éternel n'est plus dans leur mémoire? Je ne pense pas. Mais je pense que, par exemple, quand on arrive avec. Je me souviendrai plus du roi. Je me souviens juste du sacrificateur qui a découvert le rouleau du livre dans le temple, Ilkija. Et tout à coup, c'est Josias. Exactement, avec oui, le jeune roi. Et puis, tout à coup, le roi allume et puis découvre la loi, puis découvre qui est l'Éternel. Et l'Éternel était probablement un Dieu parmi d'autres. Et tout à coup, ils découvrent à reconnaître leur Dieu d'une façon personnelle, à redécouvrir leur Dieu, et sans peut-être l'avoir oublié d'une façon absolue, mais du moins dans leurs actions, ils ne s'en souviennent plus. Ils ne se souviennent plus de la loi. Comme ce que le roi, par exemple, on avait lu, il devait la lire à tous les jours pour ne pas oublier, pour mettre en pratique. Puis c'est la même chose pour le peuple. Il devait la connaître aussi, la loi, puis ils l'ont oublié. Et puis justement, Deutéronome 4, verset 5 à 9, on va ajouter un complément justement de notre nature humaine, de ce que ça révèle du cœur de l'homme. Dieu nous donne des recommandations, Dieu nous donne des éléments pour éviter ces choses-là que nous-mêmes, encore aujourd'hui, on doit faire attention. Quelqu'un qui veut lire Deutéronome 4, 5 à 9? Richard. OK. Ça révèle beaucoup. Dieu est en train de dire, il est en train de révéler notre cœur. Et fais attention, les commandements que je te donne, ils sont bons. Et c'est ce qui va te donner la supériorité aussi, puisque tu vas les mettre en pratique. Le peuple voulait un roi comme les autres peuples. Puis en fait, Dieu leur avait donné la capacité d'être perçu même par les autres peuples comme étant, wow, c'est un peuple. Cette nation grande est un peuple absolument sage et intelligent. Quel peuple? Est-ce qu'il y a des lois semblables à lui? Et j'aime vraiment beaucoup les versets 7 et 8 que je pense qu'on va relire. Quelle est en effet la grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Ça vous donne pas envie de dire amen à ça? Dieu, il est près de nous toutes les fois qu'on l'invoque. Quel Dieu de ces nations-là était aussi près comparativement à Dieu, était aussi près de ces nations, verset 8, et quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Dieu est un Dieu présent, il nous a tout donné pour pas qu'on oublie. Prends garde à toi-même, veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie pour pas que tu oublies. Mais le peuple, après Gédéon, a oublié. On revient dans Juges 8. Ils ont perdu leur fidélité, leur allégeance au roi des cieux, c'est-à-dire l'Éternel. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné celui qui leur avait donné la liberté. Ils ont abandonné celui qui les avait amenés à voir là où était le vrai bobo, qui n'était pas l'oppression des Madianites, mais qui était l'abandon de la foi. Et ils reviennent à leur problème initial, qui est l'abandon de la foi, encore d'oublier Dieu. Et ils ont même oublié Gédéon et sa maison. OK. Tournez dans Juges 9. Il reste 5 minutes pour les 57 versets. Probablement qu'on va pas voir toutes les 57 versets, là. Mais le peuple, avec Abimélech, se divise. Je vais vous résumer les versets 1 à 6. On va relire quelques versets dans les versets 7 à 5, 7 à 15. Mais dans les versets 1 à 6, Abimélech, il va voir le peuple, puis il dit, qu'est-ce qui est mieux? Qu'il y ait plusieurs fils de Gédéon qui soient là, qui ne règnent pas vraiment sur vous, ou qu'il y en ait un qui règne vraiment sur vous? Et là, le peuple, il dit, oui, on veut un roi. Et là, ils vont dans le temple de leur idole, ils vont chercher 70 pièces, sans me souvenir exactement c'est quoi, des cycles d'argent. Ils les emmènent, et puis Abimélech, il part avec son argent, puis il va s'embaucher des tueurs à gages. Il va s'embaucher des malfrats, regardez le verset, comment est-ce qu'ils appellent, là? Verset 4, oui. Des misérables et des turbulents. J'ai déjà été traité de turbulent à l'école, je sais pas, c'est un peu plus vexant. Mais il a été embauché des misérables et des turbulents. Et on comprend que c'était pas des gens recommandables. Et il est parti avec ces gens-là qu'il a embauchés. Et qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé chercher les 70 fils de Gédéon sur le même rocher et puis il les a tués. Alors, il a tué toute rivalité possible. Il est demeuré, lui, le roi seul. Et le plus jeune des fils, qui était Jotham, est resté. Et puis, parce qu'il s'était caché. Et puis, lui, il est resté. Tous les autres fils sont morts. Alors maintenant, Abimélech reste là. Il est vivant. Et là, Jotham, la ville est... La façon que c'est faite, la ville est plus basse. Il y a vraiment une montagne qui est avec une paroi rocheuse importante où Jotham est monté. Il est monté sur cette montagne-là et s'est adressé au peuple qui était en bas. Puis laissez-moi vous raconter ce que Jotham dit, une parabole. Et là, on arrive dans les versets 7 à 15. Jotham en eut été informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici, il leur cria à haute voix, « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. » En passant, Sichem, c'était la ville où la mère d'Abimélech demeurait. Alors, c'est pour ça qu'Abimélech a facilement joint la ville de Sichem avec lui, parce qu'il se prétendait leur frère plutôt que le frère des 70 autres. Alors, il a usé en même temps de tromperie ou du moins de paroles habiles. Et puis là, Jotham, il dit, « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. » Alors, les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » Mais l'olivier, verset 9, répondit, « Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? » Alors les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? » Alors les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les hommes? » Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour roi, pour votre roi, « Venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. » On va arrêter là, on va regarder tantôt rapidement les versets 16 à 21. Mais Jotham, il s'en va sur le haut de la montagne, puis il raconte cette parabole-là. Les arbres, ils veulent oindre, ils veulent choisir un arbre qui va régner sur eux. Aucun des trois premiers arbres a accepté l'offre de régner sur eux. Est-ce que je vais délaisser ce que je peux offrir en fruit, ce qui est bon, ce qui, euh, J'avais écrit une phrase là, qui résume tout cela, mais je m'en souviens pas, je l'ai écrit dans mon empressement, là. Bref, les trois premiers arbres ont refusé. Et est-ce que vous avez entendu, vu l'expression qu'il dit? Est-ce que je vais aller là pour planer? Regardez verset, planer sur les arbres. Il y a d'autres versions qui vont dire me balancer au-dessus des arbres ou planer, qui veut dire jouir de vains honneurs de la royauté. C'était l'expression que ces arbres-là, quand que le peuple, on comprend que le peuple est allé demander à d'autres fils, qu'il est allé demander à d'autres hommes saints d'esprit, qu'ils ont compris la fidélité, leur rôle que Dieu leur avait donné, leur fidélité qu'ils devaient avoir à l'Éternel, ils ont compris qu'ils devaient refuser pour ne pas aller planer, jouir de vains honneurs de la royauté sur le peuple. Et ils ont refusé. Contrairement à l'arbre qui est lui le buisson d'épines, qu'est-ce qu'il répond? Venez vous réfugier à l'ombre de mes branches. Un buisson d'épines, ça fait-tu bien des ombres? Y a-tu quelqu'un qui va aller se cacher en dessous d'un buisson d'épines? Non, pas du tout. Et c'est un peu ironique la façon que Jotham est en train de décrire ça, parce qu'il est en train de dire, vous êtes allé vous réfugier en dessous d'un buisson d'épines. Et puis, bien que le buisson d'épines ne donne pas d'arbre, mais il s'enflamme rapidement. Et puis, il brûle rapidement aussi. Alors, est-ce que c'est de bonne foi? Regardez verset 15, il dit, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, mais venez. Est-ce que c'était de bonne foi qu'il voulait Abimélec comme roi? Absolument pas. Absolument pas, parce qu'ils ont pris eux-mêmes reconnaissant, Jotham du moins reconnaissant que c'est un buisson d'épines. Dans les versets 16 à 21, et je pense qu'on va, presque arrêter là, dans les versets 16 à 21, Jotham questionne les motifs de Sichem, c'est-à-dire la ville qui est là, en ce qui concerne leur réel motif, est-ce que c'est réellement de bonne foi que vous avez choisi Abimélec? Et il est en train de révéler non. Vous avez choisi Jotham, mais ce n'est pas de bonne foi que vous l'avez fait. Parce qu'en plus, vous avez tué les fils. Vous ne vous êtes pas souvenu de la maison de Gédéon. Vous avez tué ses fils et sur le même rocher. Et puis, Jotham finit par il prononce une malédiction entre Sichem et Abimélec. Dans le verset 19. Si c'est de bonne foi et avec intégrité, qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubbaal et sa maison, eh bien, qu'Abimélec fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimélec et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et que la maison de Milo dévore Abimélec. Jotham se retira et prit la fuite, et il s'en alla à Béer, où il demeura loin d'Abimélec, son frère. C'est son frère. Abimélec et Jotham prononce cette malédiction-là entre Sichem et Abimélec. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'il y a un feu entre Abimélec et Sichem, et entre Sichem et Abimélec. Ils vont s'entre-déchirer. Ils vont, ce que l'on voit dans les versets 22 jusqu'à... on va arrêter jusqu'au verset 50. Ce que l'on voit, c'est justement le déploiement de ce déchirement-là qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a une guerre qui se crée entre les deux parties, qui pourtant, Abimélec était le roi de Sichem, et effectivement, ce que Jotham a dit se produit. Regardez, un volontaire qui veut me lire les versets 22 à 24. Daniel? OK, exactement. Dieu a fait en sorte que Sichem et Abimélec se sont entretués. Oui, Jacinthe, je sens venir ta question. Jérubbaal est Gédéon. C'est le surnom que son père lui avait donné à Gédéon. Vous vous souvenez que Baal se venge lui-même s'il est vivant. Jérubbaal, c'est ce que ça veut dire. Quand Gédéon avait abattu l'idole de son père. OK. Dieu opère toutes choses et il a opérer la malédiction que Jotham lui-même avait donnée sur, entre Sichem et Abimélec. Un autre volontaire, on va passer par-dessus la section où on voit la guerre et on va voir la conclusion justement de ce qui s'est passé dans les versets 50 à 57. Un autre volontaire, on va terminer avec ça. OK, M. Dumont. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction que Jotham avait prononcée sur eux. C'est Dieu qui l'avait fait. Abimélec, le sang de ses frères est retombé sur lui. Et il espérait que ça ne reste pas dans l'histoire, que finalement c'était une femme qui avait lancé un bout de meule et puis qui l'avait tué. Puis il avait demandé à son serviteur, tue-moi pour pas que ça reste, mais aujourd'hui on le lit encore puis on le sait. Et puis même dans 2 Samuel, là je cite vraiment de mémoire, là, David, je pense que c'est David qui l'a dit, vous souvenez-vous, il y a un homme qui a été tué justement puis s'est trop approché, je pense qu'on c'est Uri qu'on parle qui s'est approché de la muraille, puis là il dit, et boy, c'est vraiment de mémoire là, mais il dit bref, vous souvenez-vous là, faut pas s'approcher de même sur le bord de la muraille là, vous souvenez-vous là, c'est de même que Abimélec qui est mort, il avait reçu un bout de meule sur la tête là, fait que même plusieurs années plus tard, c'est cité, vous souvenez-vous d'Abimélec là, ben bref, Abimélec, la honte est retombée sur lui à cause du mal qu'il avait fait de ses frères, le sang de ses frères est retombé sur lui, Dieu l'a jugé. Est-ce que ça vous fait penser à un autre événement de la Bible, toute cette chose là? L'histoire de Joseph, OK, en quoi? Ouais. OK. OK. Alors, il ne s'est pas vengé lui-même, mais certainement qu'il a laissé Dieu accomplir la malédiction sur lui. Un événement qui va se passer dans le futur, dans ce que l'on a ici, là, pas dans notre futur, mais dans le futur du peuple d'Israël. Deux fils qui sont divisés. Un problème de royauté, un problème de culte divisé. Qu'est-ce qui est en train de se passer, hein? Ouais, exactement. On est en train de voir des prémices, justement, de la division du peuple. Et déjà, à ce moment-là, on voit que ce début de monarchie que le peuple a apporte la division. Et de même façon, on voit plus tard avec Salomon et ses deux fils qui s'entre-déchirent pour garder la royauté. Et puis que finalement, l'œuvre de Dieu s'accomplit. Dieu était au contrôle de ces choses-là. Qu'est-ce que le texte, je vais juste terminer avec quelques questions d'application, si vous permettez. Qu'est-ce que le texte de la vie d'Israël m'apprend sur le caractère de Dieu? Qu'est-ce que j'apprends de Dieu à travers ce texte-là? Il ne laisse pas les péchés impunis. Qu'est-ce que j'apprends du caractère de Dieu? Ouais, c'est ça. Ouais. Dans son amour, Dieu, nous connaissant parfaitement, nous a mis en garde de la folie de notre propre cœur. Dieu nous aime à ce point-là, connaissant ce que l'on va faire. Ouais. C'est ça. Et il y a eu des difficultés que ça a créées en Israël, exactement. Qu'est-ce que j'apprends du caractère de Dieu? Ouais. 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 Exactement. Dieu permet des choses qui ne sont pas nécessairement dans sa volonté. On peut se poser souvent la question, pourquoi est-ce que Dieu permet cela? Dieu permet des choses qu'il ne veut pas non plus. Mais il nous laisse, il nous accorde un libre arbitre qu'on peut choisir aussi. Mettez-vous dans les souliers une minute de Jotham. Ses frères sont tués. Le seul frère qui lui reste est hyper rebelle et a emporté avec lui Israël à se rebeller aussi. Et lui-même, on Jotham, on comprend qu'il a encore un attachement à Dieu par la foi qui lui a été communiquée de son père et il a l'air tout seul là-dedans. Il a de l'air tout seul et puis mais il s'accroche à Dieu et puis que Dieu te réprouve, que Dieu s'occupe de régler le conflit. Et humainement, il aurait pu chercher multiples solutions, mais la malédiction que Jotham a donnée sur le peuple, elle s'est accomplie par l'œuvre de Dieu. Du moins, on voit Jotham qui laisse Dieu réprouver Abimélec. Gédéon a eu plusieurs femmes. Ouais. De ses concubines, ouais. Ouais. On n'a pas tous les détails de ça. C'est-à-dire qu'il y a eu 70 fils, mais est-ce qu'il y a eu un fils par dame? Ouais. Une chose que l'on sait, c'est qu'il y a eu plusieurs fois. Non, non, mais je suis d'accord avec toi, je suis pas en train de t'ostiner, là. Ouais. Sa mère était une concubine de Gédéon. Exactement, qui n'était pas sa femme. Qui n'était pas sa femme. Certainement que Gédéon. Ce que l'on peut dire avec certitude, il n'avait pas eu de relation, mais l'état de concubinage, la concubine, était certainement une personne qui n'était pas nécessairement sa femme. Est-ce qu'il a eu... Mais le texte ne dit pas 70 femmes. Le texte dit 70 fils. Plusieurs femmes. Même... on peut retenir qu'il y a eu plusieurs femmes, ce que l'on sait avec certitude. Plusieurs femmes, 70 fils et les concubines. Mais le nombre de femmes concubines, on ne l'a pas. Mais 70 fils, puis on comprend que c'est pas avec la même femme. Alors, il a dû avoir des fils avec des femmes et des concubines. C'est... Là, je vais m'ostiner. Non, non, je fais des faces. Mais on voit le caractère de Dieu à travers ça. On voit le caractère de l'homme aussi. En quoi ces choses, je vais juste vous poser une question rhétorique qui nous apporte à réflexion, mais en quoi ces choses leur sont arrivées pour qu'elles nous servent d'exemple? Quel exemple que je peux tirer pour ma propre vie? Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait que je ne veux pas reproduire? Comment mettre ces choses-là en pratique dans ma vie? Quoi faire? Quoi ne pas faire? Il y a des choses qui leur sont arrivées en exemple que je comprends que je ne dois pas faire. Je comprends que je dois faire des choses aussi. On lisait ce matin dans ma classe du Code du Dimanche, Philippiens 2, 3, on parlait de vain orgueil, de vaine gloire, de ce désir d'être roi, de planer sur les autres arbres. C'est un vain orgueil, une vaine gloire venant des hommes. On doit se souvenir que Dieu contrôle toutes choses, que Dieu a avorté les mauvais desseins de Sichem et de Abimélec parce que c'était pas selon ses plans. Même si le peuple de Dieu l'avait abandonné, il a fait avorter les plans qui étaient en train de diviser encore plus le peuple. On doit rechercher cette humilité-là qui était un bon exemple que Gédéon nous a laissé. Dieu va régner sur vous. C'est Dieu votre roi. Et avoir de la déférence pour nos conducteurs, c'est un reproche qui est accordé, qui est donné au peuple d'Israël, que d'avoir oublié la maison de Gédéon, c'est un reproche qui leur est donné. Et on ne doit pas oublier nos conducteurs, les gens qu'on va se souvenir de leur foi, qu'on va chérir leur pas, qu'on va se souvenir de ce qu'ils nous ont légué et qu'on va mettre en pratique aussi et de continuer nous-mêmes d'approfondir les Écritures. Christ est roi. Dieu est notre roi. Jésus est notre roi. Et c'est pour lui que l'on marche et c'est lui qui règne sur nous. J'aimerais terminer par un mot de prière. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, t'adorer, parce que c'est vrai que c'est toi qui es notre roi. Et on est bien avec toi qui règne sur nous. Et tu es un bon roi, tu es un bon Dieu, tu es un bon papa. Tu prends soin de nous en toutes choses. Il n'y a aucune autre personne qui peut dire qu'il a un Dieu plus proche que toi, que tu peux être de nous, quand on t'invoque. On veut te louer pour ça, on veut te dire merci Dieu. Amen.